Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Deuxième volet de l'interview de l'agence ITAR et Ingrid Talandier. Bonjour Ingrid.
Bonjour Myriam.
Nous allons aujourd'hui développer un petit peu plus l'ADN de l'agence. Donnez-nous un petit peu des lignes sur combien êtes-vous, comment se passe le travail à l'agence, les nouveaux projets. Donnez-nous envie de vous connaître un peu mieux.
L'agence a été créée il y a 16 ans. On est 13 en ce moment. On a principalement une activité de logement collectif. On a démarré par du logement social et de plus en plus de logements en accession. Et on fait quelques bureaux. Ce qui nous caractérise, c'est qu'à l'agence, tout le monde sait dessiner et faire du chantier. Celui qui dessine et conçoit les bâtiments est tout à fait en mesure de maîtriser les coûts parce qu'il fait du chantier. Et ça, c'est une expertise extrêmement importante et il faut surtout pas nous l'enlever. Si les architectes perdent cette expertise de chantier, on aura du mal à construire dans des budgets qui sont maîtrisés et de qualité.
Et alors comment vous y arrivez dans la mesure où il y a certains promoteurs qui n'acceptent pas que les architectes aient des missions complètes?
Ben on se défend, on montre qu'on en est capable et en général je fais visiter les projets que j'ai réalisés, c'est très très instructif.
Donc c'est pour montrer que le projet de la conception à l'exécution est complètement maîtrisé. Comment faites-vous pour maîtriser les coûts? Comment vous occupez-vous du volet économique? Parce que c'est vrai qu'en général, ce sont des économistes, des bureaux d'études, des personnes extérieures qui s'occupent de l'économie des projets. Architectes ont depuis longtemps lâché un petit peu le sujet.
Non, on travaille en étroite collaboration avec eux. C'est nous qui cherchons les produits. On s'intéresse à la filière courte, on s'intéresse à la préfabrication. Et d'abord parce qu'on maîtrise les délais. Et je pense qu'un des points phares des constructions aujourd'hui, c'est la maîtrise du budget et la maîtrise des délais. Donc la préfabrication, c'est quand même quelque chose qu'il faut maîtriser en termes de coûts. Ça coûte un peu plus cher, mais quand on gagne quelques mois de chantier, je pense que ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser.
Alors comment travaillez-vous sur la préfabrication? Il y a la préfabrication bois, et vous allez nous en parler, mais sinon la préfabrication des panneaux béton, des moules, c'est quelque chose qui malheureusement a été extraordinaire en France dans les années, on va dire, 70-80, qui malheureusement s'est oublié au bord du chemin. Vous avez l'impression que cette filière recommence?
Oui, alors nous, les derniers projets qu'on a réalisés en béton sont du béton préfabriqué. Et la tour de Batignolles qu'on a réalisée avec Fresh Architecture est entièrement en panneaux structurels préfabriqués. C'est des panneaux sandwich béton avec un isolant intérieur qui permet de passer au-devant des planchers et d'assurer une isolation complète sans perte thermique. Et donc, on a à la fois une enveloppe finie avec un béton parfaitement maîtrisé et une rapidité d'exécution phénoménale.
Donc, alors, d'aucuns pourront vous dire, mais c'est parce que c'est Paris, c'est parce que c'est Batignolles, c'est parce que le coût à la construction est plus cher que si vous étiez en province. Comment arrive-t-on à répondre à cette question?
On y arrive aussi en province. On a quand même des préfabricateurs vers Lyon qui sont très connus. On en a sur Angers. Donc plutôt vers l'ouest de la France. Et donc, on arrive en allant visiter les usines de préfabrication à convaincre.
Donc, vous discutez sur les moules, vous expliquez ce que vous voulez?
Oui, surtout, on se rend compte de la chaîne des possibles. Et dès qu'on rajoute une nouvelle matière ou un coup de sablage sur un béton, ça coûte forcément, puisqu'on comprend physiquement, en étant dans l'usine, qu'est-ce que ça veut dire de déplacer le panneau, de l'emmener dans un autre hangar. Donc tous ces coûts-là, on les comprend en étant très à même de maîtriser la fabrication.
Donc du coup, vous obligez quelque part les usines et les ensembles de production à réfléchir avec vous sur la recherche, l'innovation.
Oui, c'est très très important.
Donc c'est bien cet aller-retour. Et est-ce qu'il n'est pas plus développé justement sur la filière bois aujourd'hui ?
Alors, la filière bois française est en train de se développer, heureusement, parce qu'elle a mis très longtemps, je trouve, par rapport aux nécessités.
Le démarrage était compliqué.
Ouais, le démarrage est quand même pas très simple. Et on se trouve face à la fois des bureaux d'études qui s'y mettent, qui maîtrisent à la fois le béton et le bois. On n'est pas obligé de faire appel à des spécialistes dans chaque matière. Et également les usines, les fabricateurs, les fabricants de panneaux bois OSB, les fabricants de charpentes. Donc on est sur une très très bonne dynamique et je suis très contente que nos trois prochains projets soient entièrement en bois, en structure bois.
Alors, on a parlé matériaux. Je sais que un de vos mots clés qui représente un peu l'ADN de l'agence, c'est la densité raisonnée. Alors, expliquez-moi un petit peu comment on arrive à faire connecter densité et raison.
Alors, y a deux sujets qui m'intéressent. Le premier sujet, c'est dans des zones urbaines déjà constituées, c'est la densification. Et c'est ce qu'on vient de faire avec notre dernier projet qui a eu beaucoup de presse, Boulevard
Oui,
Ney.
Oui, formidable, félicitations.
Donc, on est dans une couronne où les HBM ont été construits. Nous, on a travaillé sur une parcelle des années 70 avec trois tours existantes. Et en alignement sur le boulevard, qui est un boulevard où le tramway passe, on a densifié, créé deux plots qui sont reliés par une crèche et deux commerces en socle. On a créé des éléments qui...
Un bijou urbain.
Qui ont clairement amélioré le site et en même temps densifié énormément la parcelle. Et donc, c'est tout à fait possible d'allier l'esthétique...
Et on voit que c'est très subtil. Comment on trouve justement cette subtilité entre densification et objet urbain de qualité?
Il faut travailler les vis-à-vis, il faut travailler des écartements pour que les deux plots s'ouvrent vers le ciel et offrent des vis-à-vis de plus en plus larges au fur et à mesure de leur, des étages et de leur hauteur. Et puis travailler cette toute la notion d'enveloppe et de...
Comme un ruban.
D'espace extérieur. Donc on est sur une enveloppe uniforme entre les balcons et l'enveloppe fermée des espaces de logement, qui est la brique qui rappelle les HBM. Donc en fait, on a ce travail de mémoire et ce travail de densification qui est très important.
Alors, vous parliez d'écartement au fur et à mesure que l'on monte dans les étages. Les maîtres d'ouvrage souvent mettent en valeur les attiques, la maison sur le toit, etc. Puisque, évidemment, ce sont des produits qui, la plupart du temps, sont vendus plus cher. Comment fait-on pour avoir les étages inférieurs aussi qualitatifs ?
Oui, je pense que l'équité de la qualité des logements pour tous est très importante. Et donc, les rez-de-chaussée, il suffit d'avoir des hauteurs sous plafond plus hautes, de leur offrir un jardin en pleine terre et de créer des espaces extérieurs pour tous les logements, y compris les espaces, les étages en dessous des attiques. Donc, par exemple, à Batignolles, on a des balcons de 13 mètres carrés. C'est vraiment une pièce en plus.
Formidable.
Ouais. C'est très important. Mmh. Pour repartir sur la densité raisonnée dans des zones urbaines en constitution, c'est-à-dire des zacs ou des espaces totalement vierges, ce qu'on aime travailler, c'est la mixité typologique des petits logements intermédiaires, des émergences, des petits collectifs. Travailler sur des éléments qui rappellent la maison individuelle en partie basse ou en attique et donner ce sentiment que c'est comme un petit quartier qu'on crée. Et surtout, ne pas donner le sentiment d'une densité perçue trop forte.
Mais d'une singularité.
Singulière et qui s'insère dans son environnement. Il faut toujours discuter et dialoguer avec les typologies existantes. On a souvent du pavillonnaire qui jouxte des grands ensembles. Et donc, on se retrouve en sandwich entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut offrir ? Et ça fait vraiment longtemps qu'on travaille là-dessus. Moi, en tant qu'enseignante, Je travaille sur la densité, je travaille sur les villes nouvelles, sur la densité verticale. J'ai été commissaire de l'exposition il y a 10 ans, l'invention de la tour européenne, qui a permis à la ville de Paris de rehausser quelques plafonds à 4 endroits dans Paris de hauteur, et qui a permis de créer des tours de 50 mètres qui ont permis de densifier cette ville qui n'avait plus de foncier disponible.
Alors, vous parlez de l'enseignement, effectivement, et l'ADN, là pour le coup pas de l'agence, mais d'Ingrid, c'est justement d'enseigner. Alors enseigner, c'est le passage, c'est l'information, c'est le partage avec les jeunes générations. C'est quoi ce message que vous voulez leur envoyer ?
Oui, une forme de transmission de cette passion qui nous anime. Je pense qu'on est un métier extraordinaire qui est un métier d'intérêt public, qui est un métier extrêmement social. On, par nos bâtiments, on crée la ville et on crée des possibilités de mixité sociale extraordinaires. J'enseigne pour transmettre la bonne parole, que nous sommes là pour faire des bâtiments pour les gens, pour les habitants, pour les résidents, pour les usagers, et pas pour nos boucs et notre propre intérêt.
Là, on se rejoint, bien évidemment. Et puis, on s'est rejoint d'ailleurs aussi sur un site Facebook, World Women Architect Organization, où toutes les deux, on s'est croisées par hasard. C'est quoi passer et aider les jeunes femmes et les femmes dans ce métier ?
Les aider, c'est leur montrer que des modèles existent. En fait, les modèles féminins sont très rares, et dans l'histoire de l'architecture, et même dans l'histoire contemporaine. On a des stars architectes comme Zaha Hadid, en France on a Odile Deck, mais les femmes pensent qu'elles
ne
peuvent...
On leur laisse pas la place ?
Il y a un problème, bien évidemment, d'entre-soi, et les hommes autour de nous et les enseignants autour de moi les mieux intentionnés ne se rendent pas compte qu'ils n'invitent que des hommes à débattre, qu'ils n'invitent que des hommes au jury, et que très peu de femmes enseignent, très très peu. Et donc ça passe par l'enseignement, montrer que les femmes, les modèles de femmes qui font un métier passionnant, certes chronophage, peuvent quand même avoir une vie de famille tout à fait normale.
Comme les hommes.
Comme les hommes.
J'espère que vous allez bien passer ce message à toutes les femmes de votre agence et continuer à travers l'enseignement à mettre en place, je dirais, une image des femmes architectes amplifiée.
Merci Myriam
de
m'avoir
invitée. Merci Ingrid. Merci, à bientôt.
Conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.